Bienvenue à BetaFinch, votre analyse d'annonces de revenus alimentée par l'IA. Je m'appelle Alex, et avec moi aujourd'hui, c'est Jordan. Merci de nous avoir écoutés. Avant de plonger, nous devons partager quelque chose d'important. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Bon, maintenant que c'est dit, parlons de Goldman Sachs. Waouh, qu'un trimestre!
C'est vrai. On peut déjà dire que c'était du résultat record sur résultat record. Quels sont les chiffres qui vous ont le plus frappé, Alex?
Eh bien, où commencer? 20,3 milliards de dollars de revenus nets, c'est un record. 20,98 $ par action, aussi un record. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le rendement sur capitaux propres de 23,5% et le rendement sur capitaux propres tangibles à 25,5%. Je veux dire, ce sont des chiffres que les actionnaires rêvent de voir.
Et regardons le contexte un peu. C'est quoi qui a conduit à ça? Est-ce juste le marché, ou Goldman fait quelque chose de vraiment particulier ici?
Excellente question. Parce que oui, il y a clairement des vents arrière du marché. Les volumes de M&A en grande capitalisation ont augmenté de 90% dans la première moitié de 2026. C'est énorme. Mais Goldman Sachs a vraiment profité de cela comme le leader incontesté. Il conseille sur 1,2 billion de dollars en volume de transactions annoncées depuis le début de l'année. Et écoutez ça, ils ont un écart de 425 milliards de dollars devant leur concurrent le plus proche. C'est la domination.
D'accord, mais pourquoi? Comment ils obtiennent cet écart? C'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste les chiffres. C'est la stratégie.
Oui, exactement. C'est ce qu'ils appellent la stratégie One Goldman Sachs, connecter différentes parties de l'entreprise. David Solomon a mentionné quelque chose de vraiment intéressant. Depuis le début de 2025, ils ont eu près de 900 renvois de la banque d'investissement vers la gestion de patrimoine. 900. C'est un multiplier effect. Vous commencez par un mandat consultatif, puis soudain, vous avez une opportunité de financement, de gestion des risques, d'exécution sur les marchés de capitaux. C'est le flywheel qu'ils décrivent.
Et ça se reflète dans les revenus, non? Parce que je vois aussi que les revenus d'équité battent des records, la FIC monte de 32%. Où le plus gros gain viennent?
L'équité, franchement. Les revenus d'équité ont explosé à 7,4 milliards, c'est un record. En hausse de 86% d'une année sur l'autre. C'est fou. Et une grande partie de cela vient de l'Asie et des financements en équité. C'est intéressant parce que Denis, le directeur financier, a vraiment mis l'accent sur ce fait qu'ils ont investi stratégiquement en Asie il y a quelques trimestres, et maintenant ça porte ses fruits.
Donc c'est pas accident. C'est de l'allocation de capital réfléchi. Mais tout ce succès, ça me ramène à une question qu'un des analystes a posée. Si tout cela fonctionne si bien, pourquoi réduisent-ils les effectifs? Qu'est-ce qui se passe là?
C'est une excellente question, et Denis a répondu directement à ça. L'effectif était en baisse de 2% d'un trimestre à l'autre. Mais il a dit que c'est pas une réduction structurelle. C'est un résultat des gains d'efficacité, spécifically, l'IA. Ils utilisent la technologie pour rendre leurs gens existants plus productifs, plutôt que d'embaucher plus. C'est fascinant parce que c'est un changement de paradigme. Plutôt que de mettre plus de gens à travailler, vous leur donnez de meilleurs outils.
Et ça se reflète dans leur ratio d'efficacité, j'imagine?
Oui. C'est grimpé à 58,8% pour le premier semestre. C'est sous leur cible de 60%, et c'est une amélioration de 320 points de base par rapport à l'année dernière. Pour une banque d'investissement, c'est remarquable. Et ils décrivent ça comme une raison d'investir davantage dans les initiatives d'IA et dans ce qu'ils appellent One Goldman Sachs 3.0.
Parlons du cycle d'investissement en IA. C'est évidemment un énorme moteur pour eux. Mais c'est durable? Parce qu'on parle d'une super cycle, mais les super cycles peuvent s'effondrer.
C'est la grande question, n'est-ce pas? Solomon a été prudent mais optimiste. Il a essentiellement dit, on est au début du cycle, mais ça ne sera pas une ligne droite. Il y aura des recalibrations, possiblement dans les 6 à 18 prochains mois. Mais sur une période de 3 à 5 ans, il voit beaucoup d'opportunités. Et pourquoi ? Parce que ça ne se limite pas à l'infrastructure informatique. C'est dans les énergies renouvelables, dans les centres de données, cela crée des ondulations à travers les industries. C'est créant de la demande pour des conseils, du financement, de la gestion des risques, tout ce que Goldman Sachs vend.
Et il lève vraiment du capital là-dedans. J'ai remarqué les chiffres pour les alternatives, 59 milliards en levée de fonds au deuxième trimestre seul, dont 31 milliards en crédit privé.
C'est énorme. Et il vise maintenant à dépasser 125 milliards pour l'année complète. Ce qui nous dit, c'est que les LP, les partenaires limités, font confiance à Goldman pour déployer ce capital. Ce n'est pas juste du hype. Les gens mettent vraiment leur argent là-dedans.
Maintenant, regardons l'allocation de capital et ce qu'il retourne aux actionnaires. Parce que c'est un équilibre intéressant. D'un côté, ils ont des occasions d'investir dans le cycle d'IA. De l'autre côté, ils rachètent 4 milliards d'actions ce trimestre. Comment ils pensent-ils à ça ?
David Solomon a expliqué l'ordre de priorité clairement. Premièrement, ils veulent investir dans l'entreprise pour soutenir les clients si cela produit des rendements attractifs. Deuxièmement, ils veulent augmenter le dividende de manière durable. Troisièmement, ils retournent l'excédent aux actionnaires via les rachats. Et ils ont augmenté le dividende de 25% à 5 dollars par action, c'est une augmentation de 150% sur 5 ans.
Donc c'est pas que on a juste beaucoup d'argent, allons tout acheter nos actions. C'est stratégique. C'est discipliné.
Exactement. Et c'est pourquoi je pense que c'est important pour les investisseurs. Oui, les résultats de ce trimestre sont exceptionnels. Mais ce que Goldman Sachs décrit vraiment, c'est une machine bien huilée avec un avantage structurel durable. Ils ont des relations de décennies, un talent de classe mondiale, la capacité à relier différentes parties de l'entreprise. Ce n'est pas juste du trading volatile et des marchés chauds.
Mais parlons du risque pour une seconde, parce que Solomon a également soulevé des points importants. L'efficacité ratio et la position de capital, 12,9% ratio de capital action ordinaire de classe 1. C'est au-dessus des exigences, mais on échange clairement. Leur ratio de liquidité structurelle est tombé à 4,3%, c'est en baisse par rapport à avant.
C'est parce qu'ils déploient le bilan pour les opportunités de financement. Il y a plus de demandes que d'offres en ce moment pour les financements. Mais vous avez raison de souligner ça. C'est quelque chose à surveiller. Si la cycle de l'IA refroidit soudainement, ou si la volatilité du marché augmente, ils ne veulent pas être coincés avec trop peu de capital de liquidité.
Et puis il y a cette dynamique Asia Equity. Les volumes montent énormément là-bas. Mais est-ce concentré ? Est-ce durable ? Une analyste a demandé directement ça.
Denis a répondu que non, c'est diversifié. Il travaille avec des hedge funds, des investisseurs quand, des entreprises. Mais il a admis qu'il y a du risque de concentration si deux ou trois énormes clients représentent trop des revenus. C'est un des défis de croître rapidement, vous risquez de devenir trop dépendant de quelques sources.
Bon, parlons de ce que cela signifie pour les investisseurs regardant en avant. Quel est le récit clé ?
Le récit clé est que Goldman Sachs n'a pas seulement chevauché une vague de marché. Ils l'ont architecturé. Pendant 6 ou 7 ans, ils ont construit une entreprise plus diverse, avec plus de moteurs de revenus durables, une meilleure connectivité interne. Maintenant, quand le marché s'accélère, et c'est le cas avec l'IA, ils sont positionnés pour en tirer vraiment avantage. Et leurs résultats reflètent cela.
Et la forward guidance ?
Prudente mais constructive. Ils ne font pas de prédictions folles. Ils disent que la demande des clients reste robuste, les backlogs sont au niveau les plus hauts depuis 5 ans, et ils voient des opportunités pour continuer à croître les revenus sur 3 à 5 ans. Ce n'est pas une affirmation qu'il n'y aura jamais de correction. C'est une affirmation qu'ils sont bien positionnés quelle que soit la direction des marchés.
Maintenant, avant de conclure, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec nos auditeurs. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
C'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui, les gars. Merci de nous avoir écoutés sur BetaFinch. Si vous avez des réflexions sur les résultats de Goldman, ou si vous voulez que nous couvrir une autre annonce d'annonce, faites-nous savoir.
Restez informés, restez intelligents, et rappelez-vous, faites vos propres recherches. Asterisque asterisque Alexey.